Progueurs, progueuses, ici vos gars du prog!
Alors bonjour chers progueux et progueuses et bienvenue à ce nouvel épisode des gars du prog, cette fois-ci spécial parce que Philippe, mon vieux pote, mon collègue de prog de toujours, est à côté de moi aujourd'hui. On fait un épisode ensemble, version entrevue, un micro, deux fans de prog, des sujets épicés, des top 5, ma foi, explosifs. Alors, ça va être une belle expérience. On est ensemble à Limoilou, à mon appartement. Alors, comment vas-tu, mon Phil?
Ça va super bien. On va essayer de se passer le micro rapidement. C'est un oubli duo. Donc, j'ai oublié, Carl a oublié, on a tous oublié. Donc, j'espère que c'est une belle expérience pour vous. Mais ça reste un épisode spécial pour une autre raison. C'est l'épisode 60 des gars du Brog. En octobre, ça va faire 4 ans qu'on fait le balado. Donc, on veut déjà remercier tout le monde. Mais on va remercier une nouvelle fois lors de l'épisode du 4e anniversaire. Mais encore plus que ça, c'est un épisode très spécial. Ils sont toujours spéciaux. Mais là, c'est très, très spécial parce que on célèbre le 60e anniversaire de un de nos plus fidèles auditeurs, à la fois parce que c'est sa fête et c'est l'épisode 60, c'est son 60e. On célèbre ça avec un de ses artistes préférés aujourd'hui, un artiste que Carl et moi on adore, Peter Gabriel. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'album So, son grand classique, et on va vous offrir un top 5 de nos chansons préférées de sa carrière solo. Quelle est ton histoire? Toi, avec Peter Gabriel, solo.
C'est drôle, ça m'a pris du temps dans ma vie, Phil, avant d'écouter comme un album complet de Peter Gabriel. Je pense que, peut-être comme toi, mais moi, c'est mon père qui écoutait la radio rock, genre, la fin de semaine, puis, tu sais, naturellement, j'entendais les Sledgehammer de ce monde, puis les... quelle autre tune qui passait à la radio, big time. C'est quoi donc, aussi, la tune du troisième album, là, Melt, là, qu'il y a là-dessus. Game of the Frontier, exactement. Mais sinon, après ça, ben, ça a été toute la découverte pour moi quand j'avais 18-19 ans de Genesis. Puis de découvrir aussi ce personnage-là. Je pense que pour le moment que j'ai vraiment trippé sur Genesis, c'est quand j'ai découvert comme tout le côté théâtral de Peter Gabriel, puis qu'est-ce qu'il amenait, puis la profondeur dans ça. Puis que jamais vraiment perdu non plus. T'sais. Puis ça donne bien, je veux dire, je pense que c'est son dernier tour de piste cette année. J'imagine que ça doit être sa dernière tournée qu'on vit, puis mon chanceux, tu t'en vas le voir, mais juste avant que tu me parles de ça, toi Phil, c'est quoi ton histoire avec Peter Gabriel?
Moi j'ai découvert Peter Gabriel en solo avant Genesis, parce que mes parents c'est des grands fans de sa carrière solo, particulièrement ma mère. Donc maman, si t'écoutes ça, je t'aime. Mais sans farce, c'est la musique qui a bercé mon enfance, mais j'ai réalisé en écoutant sa discographie que c'est vraiment certains albums que mes parents aimaient, je pense. Pas toute la discographie. Et je me souviens d'un best-of que ma mère avait au Greatest Hits. J'ai jamais su c'est quoi la différence entre un best-of et un Greatest Hits, d'ailleurs. Et puis c'était souvent les mêmes chansons qu'ils jouaient, puis c'était le fun de les retrouver, puis c'était le fun aussi de découvrir des nouvelles chansons. Donc c'est surtout So et Us, je pense que mes parents aimaient beaucoup. Plus son époque, qu'on pourrait dire son deuxième R. Hein, il y a eu comme une espèce de break un peu entre les quatre premiers, peut-être, qui était, t'sais, il n'y avait pas de nom. Puis après ça, tu es allé à l'époque plus pop, disons. Donc, c'est vraiment de la musique qui a bercé mon enfance parmi tant d'autres. Donc, il y a des chansons qui ont un attachement nostalgique pour moi. Mais ses premiers albums, je les ai découverts beaucoup, beaucoup plus tard. Je pense que c'était. J'ai écouté le premier pour la première fois, je sais pas, ça doit faire quelques années à peine. J'avais jamais écouté le premier. Je pense qu'il s'appelle Car, c'est ça?
Exact.
Car. J'avais jamais écouté Scratch non plus. J'avais déjà écouté Melt. Donc ça a été le fun quand même de réécouter tout ça. Et donc voilà, replonger son. Définitivement celui que j'avais le plus écouté. Celui que je suis le plus familier. Mais toi, qu'est-ce que tu as pensé de son?
On se lance déjà là-dedans. Oh mon Dieu, waouh, c'est chaud, son. Ben, je veux dire, moi, je voulais juste revenir avant d'aller à So sur les quatre premiers. Moi, c'est drôle, ça a été la découverte de la pièce Intruder, Mané, qui m'a amené dans ces albums-là. En fait, j'avais vu qu'il y avait un hommage qui venait à Québec, au Palais Montcalm, je pense, avec Jerry Marotta, t'es comme le batteur original, puis Trigon, le joueur de Chapman Stick de King Crimson. Puis dans le démo, il jouait Intruder. Puis man, j'avais jamais écouté ça. Puis l'ambiance de ce tune-là, c'est quand même quelque chose. En tout cas, on va en reparler plus tard, mais je veux dire, c'est ça qui m'a amené vers ça. Puis étrangement, plus ça avance, plus j'aime beaucoup ces albums-là. Mais en tout cas, on n'ira pas tout de suite là-dedans, on va aller dans Saut. Je pense Saut, c'est drôle parce que vu qu'on est ensemble, chers auditeurs, moi et Philippe, c'est rare qu'on fait ça, mais on l'a réécouté en partie avant de faire le podcast, dans le sens qu'on était dans mon salon à écouter l'album, le début des tunes, des moments, tu sais, puis fait intéressant, la version rematricée. Est différente de la version originale. Si je ne me trompe pas, la pièce In Your Eyes, qui finit maintenant la version rematricée, était au début du side B à l'original. La raison de ce que je comprends, c'est que, vu qu'à l'époque c'était sur des vinyles, puis pas la première track d'un côté, un plus grand cercle, donc laissait passer plus la bass. Il voulait que In Your Eyes ait plus de bass que la pièce avec Larry Anderson, mais de mon point de vue, je pense que l'album n'a pas pris une ride, puis c'est encore tout aussi excellent, on s'entend. Là, je veux dire, ça commence fort, ça commence Red Rain, Sledgehammer, Don't Give Up, bam! Tu sais, je veux dire, big time, tu sais, je veux dire, je sais pas quoi dire de plus de cet album-là. La production est parfaite. Dalien Lanois a fait un travail magique. La pochette, encore une fois, folle. Le son, la performance de Tony Levine, tu sais, je veux dire, c'est excellent. Les compositions sont très bonnes, je veux dire. Mais c'est drôle, Wikipédia considère ça comme du rock progressif, mais pour moi, ça reste... En fait, c'est un peu comme Sting, tu sais, Peter Gabriel, puis Sting, c'est vraiment l'image même de la pop contemporaine adulte, là, genre, je sais pas comment décrire autre que ça, mais... En tout cas, toi, Phil, qu'est-ce que t'en as pensé?
Moi, je pense que c'est un des plus grands albums de pop de l'histoire. Je trouve que c'est un album, comme t'as dit, qui a très bien vieilli. Il n'y a pas de mauvaises chansons. Bon, il y a peut-être une ou deux chansons qui sont un peu moins mémorables, mais qui sont pas mauvaises. C'est des bonnes chansons, des bonnes pièces. Puis ils ont leur place dans l'album, surtout dans la version remasterisée où In Your Eyes est à la fin. Donc c'est comme quasiment des intros qui nous mènent vers cette chanson-là, qui est un des hits, une des chansons incontournables de l'album et de sa discographie complète. Donc, que dire sur cet album-là? Si on parle de l'ordre des chansons, tu parlais de Red Rain. C'est difficile de... On a fait un solo parce qu'on a fait un top 5 des meilleures intros d'albums il n'y a pas longtemps. Ça, c'est quand même une introduction incroyable. Ça lance vraiment, vraiment un album. Ça met vraiment le ton pour ce qui s'en vient. C'est le son, c'est ça. C'est que c'est un album qui a tellement un son reconnaissable. C'est très épuré. Je sais pas, j'aurais aimé ça l'entendre. J'ai souvent ça dans le podcast, mais j'aurais aimé ça l'entendre quand c'est sorti. Parce qu'à mon sens, ce niveau de production-là, ces sons-là, c'est quand même tôt dans les années 80, cet album-là. Là. C'est pas à la fin, je me souviens, 87? Ça se peut. Mais regardons ça live. 86, okay, c'est plus tard que je pensais. Mais quand même, j'aurais aimé ça l'entendre à ce moment-là, parce que je me disais, ça avait quand même révolutionnaire dans le monde du pop. Est-ce que c'est du rock progressif? Je pense pas. Au mieux, du pop prog. Ça existe, il y a du punk, prog, il y a toutes sortes de prog. Au final, c'est juste la mentalité de repousser les limites, on en parle souvent. Puis pour moi, c'est un album pop qui le fait quand même. Sledgehammer, je veux dire, et l'introduction à part, tout le monde sait c'est quoi, c'est iconique. Don't Give Up, tellement touchant. Hein, c'est une superbe ballade. Un des plus grands duets, à mon avis. C'est vraiment une excellente performance des deux musiciens. That Voice Again, c'est drôle parce qu'on en parlait, parce qu'on disait que c'était... moi, à mon sens, c'est la chanson la plus sous-estimée de l'album. On parle jamais de cette chanson-là. Pourtant, je trouve qu'elle est magnifique. In Your Eyes. Mercy Street, le petit riff de clavier. Cette espèce de type de son-là, je sais pas comment décrire ça, mais c'est comme de la petite nostalgie, c'est comme du mystère. Je sais pas comment dire ça, mais il y a quelque chose de spécial dans le ton de cette chanson-là. Ça me rend très mélancolique. Big Time, c'est les chansons, les paroles sont très drôles, c'est très sarcastique, ça rit des classes dominantes un peu qui se croient au-dessus de la masse. Puis c'est, je trouve que c'est très bien écrit. Puis c'est tellement flashy comme chanson, c'est tellement... c'est presque kitsch, mais bien fait, tu sais. Puis ça, je trouve que ça marche bien avec le thème de la chanson. Puis quand tu écoutes la version remasterisée, que c'est elle que moi j'ai écoutée, les chansons nous mènent à ça, puis ça fait comme une espèce d'explosion de si je regarde la version remasterisée, l'ordre des chansons. Tu sais, on a Mercy Street juste avant. Donc Big Time qui arrive ensuite. C'est vraiment une méchante différence. Les deux autres chansons qui sont un peu moins peut-être mémorables, il y a l'instrumental qui est quand même bien très très ambiante. Et finalement, This is the Picture, Excellent Birds. Encore une fois, un beau duet quand même. Une chanson mystérieuse qui me rappelle plus les premiers albums, cette chanson-là. Non, mais plus les premiers albums. Donc, très rapidement, tour de piste des chansons que je viens de faire là. Mais pour moi, c'est un 10 sur 10. Impossible de pas aimer ça, à mon avis. Là.
En fait, je pense que tu parlais du son. Une des choses peut-être précurseur qui a fait... qu'est-ce qui était précurseur, je trouve, de cet album-là, c'est vraiment comme le world beat là, à l'époque. Qu'est-ce qui a marqué la fin des années 80, même 90. Les mélanges de cultures qui sont faits au travers de... Que ce soit même du pop, de la musique jazz et autres. Je veux dire, on l'a, la pièce In Your Eyes avec Youssou N'Dour, musicien sénégalais, ou même tout l'album, la présence de certaines percussions, la présence de certains sons, qu'on reconnaît aussi certains sons de clavier. Je pense qu'ils vont marquer ça, l'avènement du world beat. Puis, justement, Daniel Lanois, le réalisateur de l'album, qui est un des grands génies qu'on connaît, qui était l'élève de Brian Eno aussi. Puis, il y a une super entrevue que je vous conseille d'aller écouter, qui a été faite par Rick Beato sur YouTube avec Daniel Lanois. Ça dure 3 heures. Là, c'est incroyable. Et Daniel Lanois, qui est même québécois, je crois. Ouais. Né au Québec, je sais pas si lui-même se reconnaît comme ça aujourd'hui, mais bref, c'est ça qui est ça. T'sais. Mais il en parle un peu de Peter Gabriel. C'est intéressant. Il disait que Peter Gabriel, quand il faisait des albums, souvent il arrivait en studio peu préparé, ou du moins avec juste des idées, puis il les construisait ensemble. Puis je pense que ça a été vraiment un travail d'équipe entre Gabriel puis Lanois sur cet album-là. Puis je pense que ça sent aussi dans la production. C'est tellement, d'une certaine manière, léché. Là. Je veux dire, c'est comme lisse, c'est le fun, c'est beau. C'est, en tout cas, c'est vrai, c'est vraiment cool. T'sais, puis tu me diras, Phil, qu'est-ce que tu penses, mais Os est un peu dans la même lignée que ça. T'sais.
Pour moi, c'est comme le cousin, si on veut, de So. Ils se partagent des... je sais pas s'ils se partagent des thèmes d'un point de vue des paroles, mais d'un point de vue du son, on est vraiment dans le même univers. Puis, je trouve ça intéressant que tu parles du producteur. C'est rare qu'on parle de producteur dans le balado. Puis après avoir écouté la discographie entière, ou j'ai pas écouté peut-être le dernier, ou l'album de cover, là, mettons, là, mais je trouve que c'est un des probablement des musiciens qui semble le plus influencé par qui l'accompagne. Des fois, on a des bands qui changent de producteur, puis on le sait pas trop, puis on ne sait pas sûr qu'est-ce que ça influence. Mais les premiers albums avec Fripp, ils sonnent complètement. Puis là, dès que Fripp s'en va, c'est autre chose. Donc, ça a l'air d'être un musicien qui a besoin d'être bien entouré. C'est ma conclusion un peu sur Peter Gabriel. Puis ça me surprend pas ce que tu dis, qu'il est arrivé à un studio avec des idées, puis il était bien entouré, il y avait un bon band, bien entendu. Il y avait un producteur qui était vraiment au cœur de l'époque, hein, je pense qu'il était vraiment du son de l'époque. Donc, bien entouré, il a fait des grandes choses. Donc, c'est fou parce que c'est vraiment la couleur de ses compositions semble vraiment influencée par la production, le producteur. Donc, est-ce qu'il y a d'autres musiciens de prog que tu connais qui sont de ce genre-là? Moi, Steven Wilson, ouais, bon. C'est vrai qu'il met sa patte quand même sur les productions, t'as raison, c'est un très bon exemple. Mais donc, c'est que dire de plus? Tu dis que c'est un album qui est le fun. Moi, je trouve que c'est un album qui nous fait passer par bien des endroits. C'est une belle aventure. Je pars souvent dans le balado d'aventure, d'un bon voyage. C'est une chanson qui va... Un album qui va vous faire passer par des chansons qui sont... Pour moi, Red Rain, ça l'a un peu aussi... Ça me rappelle mon enfance. Cette chanson-là me faisait toujours un peu... C'était mystérieux, c'était un peu inquiétant. Donc, il y a vraiment des émotions qui nous sont données à travers la composition pour les instruments de chaque chanson. On parle de Sledgehammer beaucoup plus jovial, tout ça. Les chansons nous font vraiment passer par une grosse gamme de sentiments. Donc, pour moi, c'est un album qui est quand même intense à cause de ça. T'sais. C'est un album qui est pas... qui s'écoute pas nécessairement, même si c'est un album de pop, là, c'est super à la légère, parce que tu sais vraiment, ça ne fait passer par bien des endroits. Je sais pas ce que t'en penses. Là.
Mais c'est pas lourd, t'sais, même s'il y a beaucoup de sujets, quand je disais le fun, je pense que c'est juste un album. C'est pas léger sur certains sujets, je pense. C'est comme tu me parlais de Don't Give Up tantôt, qui avait un côté très politique, t'sais, mais c'est surtout. Moi, j'écoute cet album-là, puis ça peut me faire évader pendant des heures. T'sais. Y a ces albums-là, des fois, on dirait que ça me fait juste transporter. Je me concentre même pas sur. Sur, je veux dire, la forme, quoi que ce soit. Personnellement, c'est peut-être une déformation politique, mais des fois, quand je vais voir des concerts ou tout ça, ça m'arrive souvent des fois d'être juste trop concentré sur la musique. Puis, mais des fois, je vais voir des concerts ou certains albums, puis on dirait que mon esprit a même pas le goût de s'intéresser à ça, a juste le goût d'être dans la musique puis de se laisser transporter. Puis je trouve que l'album Soul de Peter Gabriel, c'est un de ces bons exemples-là. Puis c'est drôle, en regardant sur Wikipédia, il marque à quel studio qu'ils vont, mais comment de temps qu'ils l'ont fait. Puis ils ont fait ça de février à décembre 1985. Là. Hey, c'est presque un an de travail là, en studio. Là. Ça paraît, genre, je trouve, t'es comme il y a tellement. C'est comme parfait, genre, t'es, c'est fou. Là. Puis on se remet à une époque aussi, t'es, qu'aujourd'hui, t'es, avec les logiciels de musique, on peut faire de l'édition beaucoup plus facilement puis aller corriger des trucs. Mais à l'époque, c'est quelque chose qui me fascine d'ailleurs des musiciens de studio de cette époque-là, c'est leur précision en temps réel, en peu de temps. Là. C'est fabuleux. Mais moi aussi, je donne un 10 sur 10. Je pense que c'est un des classiques de la musique moderne du 20e siècle, là, cet album-là. De la musique populaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que on pense aux années 80, on va penser à Thriller, à d'autres albums comme ça, et So d'ailleurs, qui a marqué beaucoup de monde, je pense. Fait que, ouais, t'avais-tu d'autres choses à dire sur le sujet, mon Phil?
Ben oui, une dernière chose que tu m'as fait penser en parlant d'un an en studio, ça paraît aussi, je trouve, parce qu'il n'y a rien qui semble laissé au hasard dans cet album-là. Ça semble très calculé. Dans Red Rain encore, il y a le bout du hi-hat. C'est Copeland de The Police qui fait juste la hi-hat. T'sais. Parce qu'il voulait sûrement un style hi-hat pour l'intro de l'album. Puis je me souviens plus sur quelle chanson, quand tantôt on l'écoutait, puis je disais, il y a quand même plusieurs étages à ça. Pour de la musique pop, c'est quand même étagé. C'était-tu That Voice Again? Je suis pas sûr, mais je me disais, pour de la pop, quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a vraiment beaucoup de. Les instruments sont sollicités, puis des fois on dirait qu'ils s'isolent les tracts. C'est comme, hein, c'est vraiment la musique qui a été construite et planifiée, mais ça a quand même un son organique. Donc c'est quand même une réussite d'un point de vue de composition et de production complètement. Là. Donc si vous ne l'aviez pas encore écouté, je pense que c'est une recommandation facile de la part des gars du prog. Je pense que c'est, en effet, ça fait partie des albums qu'il faut connaître si on se considère mélomane. C'est un incontournable. On le voit, là, on a à l'écran la liste des chansons, puis il y a 5 chansons sur les 8 qui étaient des singles. c'était vraiment une machine à succès. Puis c'est quand tu l'écoutes la première fois, puis tu es comme, hey, je connais celle-là, hey, je connais celle-là, hey, je connais celle-là. T'sais, tu fais comme ça 5 tunes d'affilée. C'est impressionnant. Donc, est-ce qu'on serait prêt à continuer notre aventure, puis Gabriel a embarqué dans notre top 5? Donc, top 5 de nos chansons préférées. J'ai hâte de savoir, vraiment, parce que j'ai honnêtement aucune idée. J'en ai une ou deux que je sais qui vont être dedans, parce que t'en parles plus que d'autres. Mais vraiment, l'ordre, la position, je n'ai aucune idée. Donc, je vais te laisser commencer. C'est quoi ton numéro 5?
Juste avant de parler de mon numéro 5, je pense qu'il y a un des choix qui est obscur. Mais c'est pas le numéro 5, mais j'ai un choix obscur. Puis imagine si on a le même, sérieux. Mais je vais juste dire, c'est ça, je vais revenir sur les 4 premiers albums. Moi, ça a été une découverte, surtout les 2 premiers, à quel point c'était un son moderne pour 76, 77. Moi, j'écoutais ça, j'étais comme ça doit être 81, 82, mais non. Genre, fait que... Puis c'est impressionnant comment saut juste 5 singles, mais il n'y a pas tant eu de hits sur les autres albums. C'était intéressant. Bref, mon numéro 5... En fait, c'est drôle, ben j'aurais pu choisir Sledgehammer, mais j'étais allé avec Steam. Tu sais, c'est un peu de tune qui est un peu dans les mêmes veines, t'es très groovy là, avec la ligne de bass puis tout ça. Puis c'est surtout que j'ai choisi Steam parce que je voulais aller dans d'autres albums. Je voulais parler de Us, qui est un très bon album. Je trouve personnellement un peu moins marquant que So. Mais après ça, il a comme eu toute sa tournée Third World en lien avec ça. Puis Non, pour ça, Steam, ben, j'aime vraiment le groove. J'aime. Il y a un clip un peu funky, genre, avec les technologies de l'époque que je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment drôle. Mais non, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est vraiment une tune classique Peter Gabriel 80, là, avec un groove de Tony Levin qui est vraiment cool, avec des drums, des sons électroniques, genre un peu saccadés, genre, avec un refrain super accrocheur qui met vraiment en évidence les capacités vocales de Peter Gabriel. Fait que, ouais, pour toutes ces raisons, j'ai mis la pièce Steam.
C'est drôle parce que Steam, Big Time, puis Sledgehammer, des fois, ils se mélangent dans ma tête, ces trois chansons. Je sais pas pourquoi, mais des fois, je chante Steam sur l'air de dans ma tête, t'sais, sur l'air de Big Time, mettons. Mais sont différentes, ces trois chansons-là, bien entendu, mais ils ont la même espèce de. C'est bombastique, c'est très. C'est très. C'est quasiment. Fanfaron, t'sais. C'est pas fanfaron, mais c'est comme. C'est grandiose comme chanson. Puis pour l'époque, c'est très, très. Années 80 aussi, mi-80, donc. C'est un excellent choix. Puis pour revenir sur les quatre premiers, moi, c'est ça parce que le numéro 1, Car, moi, c'est l'album que j'ai trouvé un petit peu une ramassée d'idées. J'ai trouvé un peu décousu cet album-là. Je trouvais qu'il manquait de ligne directrice. Puis c'est drôle parce que je sais plus si c'est sur lui ou sur le deuxième, mais il y a une chanson, il y a deux chansons qui sont aussi sur le premier album solo de Robert Fripp, Exposure. Je sais pas si tu as remarqué ça. Il y a Exposure. Et il y a aussi Here Comes the Flood. Et puis Exposure, la version de l'album Exposure de Fripp, moi je l'aime beaucoup plus. Parce que c'est une femme qui chante puis qui fait le Exposure. Elle part comme ça. Puis ça fait un peu Great Gig in the Sky. Là, c'est comme une, ben, elle fait pas d'envolée jazz, là, mais c'est comme elle fait juste dire le même mot très très intensément, un peu improvisé. Fait, je vous suggère d'aller écouter la version Robert Fripp de cette chanson-là et aussi la version Robert Fripp de Here Comes the Flood qui est chantée par Peter Gabriel. Non, je comprends pas tout ce qui s'est passé. Je serais curieux de savoir pourquoi ces deux albums, ces trois albums-là sont connectés comme ça. À mon avis, c'est qu'ils se tenaient ensemble puis on fait ces albums-là en même temps puis ils se sont dit, hey, on l'écrit ensemble, fais ta version, je vais faire ma version. En tout cas, c'est cool de voir ça parce que je savais pas. Je savais pas avant de faire ça que Exposure était là-dessus aussi. Mais enfin. Tout pour dire que mon numéro 5 vient de Scratch, qui est le deuxième. Et c'est mon gros deep cut. Pour moi, ça a été une révélation, cette chanson-là. Je sais pas si c'est la tienne, mais c'est White Shadows. Et pour moi, c'est comme une. C'est probablement la chanson. Je sais pas si c'est là, mais c'est une des chansons les plus prog qu'il a composées post-Genesis. Puis je la connaissais pas avant qu'on fasse ce top 5-là, ou je l'avais entendue, puis ça m'avait comme échappé. Mais en les écoutant plus attentivement, il y a une longue introduction instrumentale, il y a un super beau refrain, le clavier est super intéressant. C'est vraiment le côté, c'est comme la tune la plus prog, la plus unique. Puis pour moi, c'est comme, s'il était resté avec Genesis, peut-être que cette chanson-là aurait pu être dans un album de Genesis, à mon avis. Vraiment, puis c'est rare. C'est rare dans sa carrière solo qu'on se dise ça. Ça aurait pu être sur un album de Genesis. Mais cette chanson-là aurait définitivement pu s'y retrouver, à mon avis. Ça a été pour moi, dans cet exercice-là, la plus belle découverte. Les autres, dans mon top 5, je les connaissais déjà, soit peu ou beaucoup. Mais pour moi, celle-là, ça avait vraiment été une belle surprise. Mais le 2, moi, c'est le 2 qui était la grosse surprise. Scratch, là, j'aime beaucoup Mother Violence aussi. Exposure, c'était cool de l'entendre. Il me semble qu'Indigo, je l'avais bien aimé aussi. Donc, il y a quand même des bonnes chansons sur cet album-là. Plus, je le trouve aussi mieux réalisé, le plus structuré que le premier. Mais voilà. Donc, mon numéro 5, c'est White Shadow sur l'album Scratch 2.
Intéressant, moi ça a été le premier, c'est intéressant de voir ça, mais je savais même pas j'avais pas fait le lien entre Exposure avec Robert Fripp et tout. Mais ça fait tout son sens. D'ailleurs, les performances de Fripp là-dessus sont tellement marquantes. C'est un peu comme Heroes de David Bowie, on reconnaît tellement quand il joue sur une pièce, il y a sa signature, puis ça change toute la pièce, il y a une ambiance. Je pense que c'est ça aussi qui donne le côté, des fois, peut-être plus moderne à ces trucs-là. Ben, White Shadow, je vais aller écouter ça. Moi, une affaire qui me fascine, c'est que les deux autres d'après, ils ont des versions en allemand. Je veux juste savoir le backstory, l'histoire derrière tout ça. Je comprends pas pourquoi ils ont réenregistré littéralement l'album en allemand. Vous aurez écouté ça, c'est vraiment pété. Ça m'amène à mon numéro 4, mon film. Elle arrive déjà, peut-être que toi, elle va arriver plus tard, mais moi, ça tourne In Your Eyes. C'est une pièce, je veux dire, aurait pu être beaucoup plus haute, mais il y a des tunes peut-être qui me touchent plus, mais personnellement, même quand ça part, je trippe, je capote. Je veux dire, c'est tellement une belle pièce, justement, pour tout l'apport que ça a fait à la musique, pour le côté world beat, Ça nous a fait découvrir Youssou N'Dour, qui est un chanteur sénégalais exceptionnel. Ben, le sujet de la pièce aussi, la forme, les sections, je veux dire, c'est vraiment un bon exemple d'une pièce pop bien construite avec une bonne propriété sonore. Puis même, ça a été fait il y a 36-37 ans. Je trouve que c'est encore d'actualité, puis qu'il y a un son encore très frais, puis très bon. Je veux dire, voir ça en concert, mon chanteur, tu vas le vivre, mais ça doit être une émotion là, complètement folle. D'ailleurs, je vous conseille, il est en tournée en ce moment, puis Tony Levin, sur son site, publie régulièrement un journal de bord de tournée, puis c'est vraiment intéressant. Je vous le conseille.
Excellent choix, classique, touchant. La chose que j'aime moins de cette chanson-là, c'est la guitare. Ce son-là, c'est comme le seul son de saut que j'aime un peu moins, la guitare. Je pense que c'est le truc qui a un petit peu moins bien vieilli. C'est pas terrible, c'est une superbe chanson. Mais oui, c'est mieux à la fin de l'album. Vraiment, là, je l'ai dit tantôt, mais ça clôt vraiment l'aventure de façon touchante. J'ai hâte de voir ça en spectacle. J'ai hâte de voir quel genre de spectacle visuel on va avoir avec ça. Je sais qu'il est connu pour ses plus vieux aussi. Peut-être que ça va être moins. Il marchera pas à l'envers sur le plafond comme il a déjà fait, là, mais ça risque d'être quand même beau. Robert Lepage qui produit encore le spectacle, donc qui m'enseigne, je veux dire, pardon. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. On devrait y écrire. On devrait s'essayer, enfin. Restez au courant, cher gars du prog. Qui sait? Alors, mon numéro 4, on va sur Melt, donc sur le troisième. C'est Biko. Pas le choix d'inclure cette chanson-là. Tu parlais tantôt de l'inclusion du world beat. C'est probablement une des chansons les plus iconiques de ça. C'est un sujet qui est touchant aussi. C'est un militant anti-apartheid, Biko. J'aime beaucoup l'introduction et la outro avec les chants du peuple. Je sais pas comment appeler ça, là, le chœur. La percussion qui est très très simple mais très très efficace, qui est un élément assez commun de cet album-là d'ailleurs. Des percussions qui sont reconnaissables. C'est une chanson qui est quand même minimale aussi. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'instruments. Il y a une espèce de guitare avec du gros reverb, je sais pas quoi, puis la percussion, puis une très belle performance vocale qui semble très. Il semble passionné par le. Il y a certaines. Des fois, tu sens que le chanteur en studio, il semble vraiment vivre une émotion à travers le micro. On pense à les colocs, tu sais. Une petite nuit, là. T'sais, on dirait, t'sais, y a apparemment qui pleurait en chantant cette chanson-là en studio. Il y a des chansons comme ça que tu disais, on l'entend, l'émotion. Puis cette chanson-là, moi, je trouve qu'on l'entend. Vraiment, il a l'air de livrer. Il livre une super performance. J'aime aussi une chanson qui est plus sur la longueur, chose qu'il n'a pas faite beaucoup dans sa carrière. Elle dure comme 7 minutes, je pense. Donc, ça laisse le temps de développer l'univers de cette chanson-là. Donc, pour moi, c'est un classique. Puis c'est vraiment une de ses meilleures chansons, là, facilement. Bico, numéro 4.
Le son de cet album-là est intéressant aussi, très agressif par moments, là, presque, j'allais dire pas new wave, mais il y a un côté plus rock, pas punk, mais très rough un peu, peut-être moins polyprog que les autres. Ah ben, tout un classique, Bico. J'avais découvert ce son-là dans le temps, il y avait comme comment il s'appelait ce band-là, tu sais, c'est un artiste qui partait partout dans le monde, il allait taper des musiciens de rue, genre, puis. Playing for Change, quelque chose comme ça. En tout cas, puis il faisait une magnifique version de Biko. Très bon avec des musiciens de partout dans le monde. Ça marchait bien avec l'esthétique, mais ça m'amène à mon numéro 3, Phil. Ça, c'est mon choix salé. C'est une pièce du premier album. Oups, pardonnez-moi. C'est une pièce du premier album qui s'appelle Humdrum. Je sais pas si tu l'as en tête. Mais c'est une pièce vraiment prog. C'est une pièce qui passe, qui a vraiment des belle couleur d'accord, puis à un moment donné, ça tombe dans une sorte de rumba salsa à l'intérieur. Ça re-switch. Puis je me souviens, la première fois que j'ai écouté cet album-là, comme je te dis, je pense, dans les quatre premiers, je pense que c'est devenu mon préféré. Avec le troisième, sérieusement. Puis si on avait fait un top 5 des albums préférés de Peter Gabriel, ça se serait battu avec Saut, peut-être. Mais quand moi, c'est quand j'ai comme. Cet album-là me. De vraiment m'accrocher quand j'ai entendu pour la première fois Humdrum. Puis tu sais, des fois, tu écoutes une pièce, puis dès la première écoute, c'est comme, wow, qu'est-ce qui se passe, genre. Puis, ouais, non, exactement, ça m'avait fait vraiment un effet de ouf. Ça me rappelait vraiment le côté prog de Peter Gabriel. Puis c'est la chose que je pense j'aime beaucoup cet album-là. C'est qu'on sent que ça faisait pas longtemps qu'il avait quitté Genesis, puis il avait encore le goût de faire des pièces plus long, pas, ben pas plus long, mais plus complexe, plus charnu, avec plusieurs changements de section un peu subites. Puis, ouais, non, c'est ça. Puis, je pense qu'on voit déjà peut-être aussi qui est intéressé justement avec la présence de la salsa puis la rumba à aller vers d'autres styles musicaux, des trucs peut-être plus de la musique latine, de la musique de l'Afrique, ce qu'on a peut-être moins senti avec Genesis à ce moment-là. Ils l'ont fait plus tard, t'sais, mais ouais. C'est pas mal ça.
Ouais, celle-là, c'est pas une qui m'a marqué. Il y a quelques chansons du premier album que j'aime bien, mais celle-là, je sais pas. Ça, je m'en souviens plus. Faudra que je réécoute. Pas mon préféré, comme j'ai dit, mais je sais pas que c'est un mauvais album, mais c'est pas mon préféré. Pour mon numéro 3, on retourne sur So, finalement, enfin, avec Red Rain. J'en ai parlé beaucoup tantôt, donc je pense que vous doutiez que ça s'en venait. Incroyable l'introduction. J'aime beaucoup, beaucoup le fait que le hi-hat sonne aussi différent que le reste de l'album. Très jazzé sur le petit hi-hat. Mais pour moi, c'est vraiment l'ambiance de cette chanson-là qui est exceptionnelle. J'en ai parlé tantôt. Et c'est mystérieux. Il y a une certaine lourdeur à cette chanson-là aussi. Je me souviens d'avoir lu que c'était basé sur une espèce de rêve qu'il y avait eu. Je sais pas trop quoi. Puis... je le sens dans la chanson, une bonne ligne de bass aussi, magnifique performance vocale, il y a une grande envolée vers la fin qui va plus haut que d'habitude, même sur cet album-là. Donc pour moi, c'est une bonne performance du Ben en général. Elle sonne pas comme les autres chansons, c'est une des chansons plus uniques aussi à mon avis, mais qui est quand même iconique de son solo. Puis je sais pas, j'ai le souvenir, c'est drôle parce que j'ai le souvenir clair de mes parents avaient une pochette de CD là. Puis je me souviens qu'il y avait l'album So, puis c'est la première chanson, c'était Red Rain. Puis tu sais, j'étais petit, je parlais pas anglais vraiment, mais tu sais, je comprenais ces deux mots-là. Puis dans ma tête, j'imaginais genre un monde apocalyptique, genre terrible là. Puis toi aussi, c'est ça. Fait que c'est une chanson qui m'habite depuis que je suis petit, donc c'est sûr qu'elle est importante pour moi. Donc mon numéro 3, c'est Red Rain.
Ah, tellement une bonne chanson. Peut-être qu'on va en parler plus tard, on ne sait jamais. Mais non, moi aussi, je m'imaginais un monde, genre, t'es comme avec genre des pluies acides, genre des camions dans une jungle coupée, genre l'Amazonie rasée. Pour moi, c'est Red Rain, genre. mon numéro 2, on va dans le troisième album, Melt, c'est The Intruder. L'ambiance de cette pièce-là, moi, ça me fout les jetons, là. On dirait un film de peur avec les genres de sons de cordes. Le solo de xylophone weird que je suis sûr que Les Claypool s'est inspiré pour sa pièce One Better, mais ça c'est, je sais pas pourquoi à chaque fois je fais attends, cette tune là ça me fait penser à ça, mais bref, c'est une tune qui m'avait vraiment ramené à Peter Gabriel il y a quelques années. Je savais pas qu'il avait fait une pièce comme ça, puis j'étais comme wow, puis tu sais la pièce, puis là après il y a comme une histoire, puis c'est lui l'intruder, puis finalement genre c'est comme vraiment capoté, mais c'est l'ambiance de cette pièce là qui me marque beaucoup. Les couleurs d'accords, la sonorité, la batterie aussi. C'est Phil Collins qui joue sur cette pièce-là. Le son vraiment puissant de la batterie de Phil Collins est vraiment marquant. Puis c'est le fun de voir qu'ils ont joué ensemble après aussi. Puis que t'es pas en chicane nécessairement. D'ailleurs, je me demande s'ils se parlent encore les cinq gars ensemble. C'est seulement ils étaient revenus. Ah, je te dis. Pour un show. En tout cas, bref. Donc, pour cette raison-là, la pièce Intruder.
Une autre bonne introduction. Hein, on parle de Red Rain, là on parle de Intruder. Belle ouverture d'album aussi. Moi je me souviens que c'est une chanson que ma mère aimait pas. Je me souviens que j'étais petit, ma mère n'aimait pas cette chanson-là. Puis je pense que ça, la lourdeur dont tu parles est en partie responsable pour ça. Puis c'est une ambiance assez. J'allais dire sévère. C'est sévère, mais c'est. Ouais, peut-être un peu inquiétant. Donc, encore une fois, des introductions d'albums inquiétants. Apparemment, il aime ça, faire ça. Mais oui, c'est assez original aussi, comme écriture. Là, c'est assez unique. Donc, c'est un bon choix. Bon, numéro 2, on reste sur So avec Don't Give Up. Donc, c'est drôle parce qu'on en parlait tantôt. Puis tu disais que toi, c'était peut-être une chanson que tu aimais peut-être un peu moins. Ouais, enfin. C'est juste que je trouve que c'est un très, très beau duet. Donc, c'est un très beau duo. Des deux chanteurs, un homme, une femme. Je trouve ça très touchant parce que je trouve que c'est une chanson qui est sur le, comment dire, la puissance de l'amour puis du couple. T'sais. ce que s'il raconte un peu de ce que je comprends, c'est que les temps sont difficiles pour lui, puis que c'est ça va pas bien, l'économie va pas bien, puis que sa conjointe lui dit tout va bien aller, t'as des amis, t'as de la famille, moi je suis là aussi, on t'aime. Je trouve que c'est un bel hymne à la camaraderie d'un couple, la loyauté d'un couple, puis le comment, à travers les durs moments, on peut survivre grâce à nos proches. Pas juste nos conjoints, conjointes, mais aussi nos amis, notre famille, etc. Puis tout ça est mené par une ambiance exceptionnelle, sublime, utilisation de la base, bien entendu, pour vraiment transmettre des émotions, puis créer une ambiance exceptionnelle. Je joue principalement avec la basse. C'est ce qui est incroyable quand même. C'est comme un instrument central de la chanson. Et les chants, bien sûr. Donc, pour moi, c'est juste une chanson extrêmement touchante. Très, très bien composée. Des belles performances. Puis, j'aime juste les valeurs de cette chanson. C'est rare, je dis ça. Les paroles et la musique ensemble vraiment transportent ce message d'espoir-là. T'sais. Donc, pour moi, c'est une des plus belles chansons. T'sais. Je l'aime énormément. Donc, mon numéro 2, c'est Don't Give Up.
Ah, oh, c'est une magnifique chanson, mais c'est pas tout que... C'est pas que je la déteste, c'est juste une toune... Personnellement, c'est une toune qui me touche moins. T'sais, c'est une toune que j'ai joué une couple de fois avec du monde. Puis, t'sais, à chaque coup, je suis comme, ah, oh, ça doit être touchant, mais je pense qu'est-ce que j'aime le plus de la pièce, c'est l'ambiance, comme tu dis. Quand Kate Bush arrive, là, le son de clavier qu'il y a là, c'est vraiment quelque chose. Mais j'ai toujours trouvé que c'est une toune, c'est personnellement, mais qui manquait... un petit élément de complexité, mais en même temps, tu sais, un accord qui change surprenamment quelque part, quelque chose de surprenant, mais c'est une magnifique pièce, là, je veux dire, c'est tellement bien écrit et tout ça, mais ça, c'est personnellement. C'est, par exemple, mon numéro 1, Red Ring, qui est, tant qu'à moi, sa meilleure chanson, il y en a tellement des bonnes, je veux dire, mais je trouve que la chose de Peter Gabriel, puis on n'arrête pas d'en parler plus tantôt, mais la chose dans laquelle il est bon en tabarnache, c'est de créer des ambiances. C'est de créer un moment. Même chose dans le temps de Genesis, sa performance scénique, ça crée une ambiance à la pièce. T'sais. Il y a comme quelque chose de plus grand, justement, qui nous transporte, puis qui, comme je disais tantôt, qui nous fait peut-être oublier qu'on écoute une chanson en ce moment, puis qui nous fait vivre un moment. Puis Red Rain, tout particulièrement, les pianos, le hi-hat, comme tu dis, les sons, tout ce qui se passe, c'est juste tellement plein de sonorités qu'on est transporté. Puis moi, j'aimais le côté imaginaire de la chose, t'sais, qui me faisait voyager. Puis, ouais, mais que dire de plus que qu'on l'a pas dit tantôt, c'est une chanson de fou, une ouverture de fou, là, je veux dire. Puis, ça met la table sur qu'est-ce que Saw aussi est après. Puis, sur la musique des années 80 qui s'en va vers les années 90. Donc, pour toutes ces raisons, Red Rain.
Ben, écoute, je l'ai choisi moi-même. Donc, c'est sûr que je suis d'accord avec ton choix. Excellent, excellent choix. Je sais plus quoi rajouter rendu là. Je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Mais j'aimerais parler de mon numéro 1, bien entendu, qui est un plaisir coupable. Salisbury Hill. Ce n'est pas Salisbury Hill. Mais c'est un plaisir coupable. Mais je vais déconstruire un peu la chanson avant. Je pense qu'elle a tellement de moments et d'éléments qui sont reconnaissables et qui sont iconiques que pour moi, c'est impossible de ne pas mettre Games Without Frontier. Carl n'a pas deviné celle-là. Écoute, quand j'ai réécouté les chansons, j'ai commencé par écouter ces classiques de ma jeunesse. Puis, il y a vraiment des belles chansons. Blood of Eden, il y a bien sûr Salisbury Hill que tu as mentionné. Il y a, comment ça s'appelle, Shook the Monkey. C'est des super bonnes chansons. Mais Games Without Frontier, il y a quelque chose dans cette chanson-là. Je ne sais pas c'est quoi. Puis on parlait d'ambiance, encore une fois. C'est quand même une sacrée ambiance. Je sais pas, il y a tellement d'éléments, la percussion, il y a le sifflement, il y a le refrain, les couplets, il y a comme deux sous-couplets, si on veut. Là. C'est hypnotique, cette chanson-là. Il y a quelque chose de... Je pense que c'est peut-être les percussions, la répétition, là, c'est comme un mantra, presque. Là. Moi, c'est, je sais pas, c'est un plaisir coupable, c'est pas du tout prog, c'est une chanson super pop... Mais qu'est-ce que tu veux? Je ne puis m'empêcher d'aimer Games Without Frontier. C'est vraiment... c'est ça. Pour moi, c'est comme sa meilleure chanson, puis c'est super pop. Pis c'est... Écoutez, je suis honnête avec vous. C'est un préféré. Que voulez-vous? Alors voilà, vous avez notre top 5 de nos chansons préférées de Peter Gabriel. Bon anniversaire un de nos plus grands fans. On espère que l'épisode vous a plu. Qu'est-ce que tu as pensé de nos top 5?
Ben, moi, je suis super content. Mais après, je veux dire, ça me donne le goût d'aller en écouter, mais c'est intéressant de savoir que je t'ai surpris que In Your Eyes n'était pas dans ton top 5, mon fils.
Non, je l'aime, mais c'est top 10. Ça aurait été top 10, c'est sûr. Mais bon.
Mais une pièce, par exemple, qui est comme un des plus grands classiques, qui m'impressionne, c'est Salisbury Hill. Je trouve cette pièce-là sonne tellement pas comme 1977.
C'est vrai, puis c'est tellement pur, cette chanson-là. C'est comme juste. C'est jovial, c'est très. C'est pur, je sais pas comment dire ça. Tu passes ça, puis c'est juste de bonne humeur, tu sais.
Elle a comme aucun rapport avec le reste de l'album, par exemple.
C'est assez. Moi, j'imagine s'il a composé ça, vite fait, une fois, puis il a dit, hey, c'est bon ce riff-là, tu sais. Puis il a jamais refait ça après non plus, là. C'est un peu, ouais.
Pour notre prochain épisode, mon Phil, j'aimerais te proposer qu'on écoute l'album In Absentia de Porcupine Tree. Je pense qu'on n'a jamais critiqué un album de Porcupine Tree. Puis j'ai eu une discussion avec mon claviériste Francis Grégoire dernièrement par rapport à Porcupine Tree. Ça m'a redonné le goût d'en écouter. Et qu'est-ce qu'on fait comme top 5, mon Phil?
Je veux d'abord dire que je n'ai jamais écouté un album de Porcupine Tree. Donc ça, je pense que ça va offenser bien des fans du balado. Je sais pas, ce que j'ai entendu m'a jamais vraiment intéressé, mais je vais lui donner une chance très honnête. C'est une époque du prog que en général je suis moins fan, mais on va voir. Notre top 5, je pense qu'on avait dit que c'était top 5 des vidéoclips de prog. Je pense qu'il y aura beaucoup d'études à faire là-dessus. Est-ce que Sledgehammer va être dans ton top 5 avec le train qui tourne autour de Pierre Gabriel? Je sais pas si tu as déjà vu le. Ben écoute, je sais pas. Donc voilà, préparez-vous pour le prochain épisode, épisode 61. D'ici là, ben, on veut bien sûr remercier notre producteur, M. Danny Gravel, la légende, qui est là. Et tous nos autres Patreons aussi, bien sûr, c'est très très apprécié, votre support. Si vous voulez supporter le podcast, il y a plusieurs façons de le faire. La première, bien entendu, c'est de partager le balado avec vos proches, amis mélomanes, si vous avez des gens de votre famille proches de vous qui sont fans de Peter Gabriel, partagez cet épisode-ci peut-être, ça pourrait être une belle introduction. Sinon, si vous voulez nous supporter un peu plus, on a un Patreon où vous pouvez nous supporter pour un petit 2$ par mois, un moins qu'un prix d'un café. Vous avez l'épisode 24 heures avant tout le monde, vous avez accès à des canaux privilégiés pour communiquer avec nous. Sinon, si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à lesgarsduprog@commercial.gmail.com. Questions, commentaires, suggestions. Le sondage est toujours en ligne. Si vous n'avez pas encore répondu, je pense que pour la dernière fois, je vais le mettre dans la section description. Mais ce serait vraiment sympathique si vous pourriez aller répondre. Ça va nous aider à nous diriger pour le futur du balado. On commence notre cinquième année bientôt. Donc voilà, on a peut-être des petits changements. Qui sait, on va voir. Mais d'ici là, merci encore une fois de votre support. Et puis Carl, je te laisse le mot de la fin.
Alors vive le prog!